Bonjour à tous, merci beaucoup à l'équipe organisatrice du séminaire de cette invitation et merci aux collègues de l'URMIS pour cet accueil très, très amical. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir poursuivre une discussion qui avait été entamée début juillet dans le cadre du séminaire interne, à l'occasion duquel j'avais présenté très rapidement le groupe de recherche Migration lusophone. Et donc, dans lequel donc s'inscrit ce travail. Alors, je suis anthropologue, j'ai été recrutée au CNRS en octobre 2016. J'avais fait une thèse à l'EHESS en anthropologie sur l'immigration portugaise en France et au Portugal, sur des circulations entre les deux pays et sur l'affirmation identitaire de jeunes d'origine portugaise ou franco-portugais ou luso-descendants, et avec aussi toute une approche sur les questions de mémoire et de construction d'une mémoire de l'immigration en France. La recherche que je vais vous présenter s'inscrit dans un post-doctorat que j'avais commencé à Lisbonne, à l'Université Nouvelle de Lisbonne, et donc je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Vous m'entendez ou est-ce que je dois allumer le micro? Ce serait mieux?
Au fond.
Alors, donc la recherche que je vais présenter aujourd'hui est un travail qui est en cours, et qui s'inscrit donc dans mon projet CNRS, que j'avais intitulé « Circulation » au pluriel, « Mondes imaginés et rapport au temps en lusotopie ». Alors, rapport au temps, parce que je travaille à la fois sur le rapport au passé, mais aussi au futur, à travers les aspirations de migrants. Je reviendrai aussi peut-être là-dessus. Et donc, j'avais mis deux points et présenté des terrains qui renvoyait à la fois au Portugal, à l'Angola, au Brésil, mais aussi, puisqu'il faut être ambitieux, au Mozambique, Goa, Macao, etc. Et donc ce projet propose d'engager une réflexion sur les continuités et les ruptures avec l'héritage colonial impérial portugais, donc à partir de migrations contemporaines observées dans cet espace dit lusophone, qui est caractérisé par une grande diversité de flux migratoires, de flux anciens qui observés donc au moment de l'Empire portugais, mais aussi de flux contemporains, et c'est davantage sur cela que je vais travailler. Et je parle de diversité de flux parce que il y a notamment des flux nord-sud, donc de portugais qui vont vers l'Angola, le Mozambique, et c'est notamment là-dessus que je vais vous présenter des données sur ces flux migratoires, mais aussi des flux sud-sud entre le Brésil, l'Angola et le Mozambique. Alors, cet espace dit lusophone, ou cette lusotopie, est caractérisée par une histoire commune, qui est celle de la colonisation portugaise, d'une langue commune, et c'est un sujet très problématique puisque c'est une langue dont les normes sont définies à partir du Portugal et du Brésil. Et cela renvoie aussi à un projet politique puisqu'en 1996, la communauté des pays de langue portugaise a été créée, donc à l'initiative du Portugal et du Brésil. Donc là aussi avec des rapports conflictuels entre les différents pays. Vous voyez, j'ai repris la carte qui est présentée sur le site de cette CPLP. Comme ça, vous pouvez aussi situer les différents pays dont je vous ai parlé. Donc on a le Portugal en haut avec le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Saint-Tomé et Principe. On voit rien ? Ah. Donc, l'Angola, l'ancienne métropole, et donc vous voyez ensuite le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Saint-Tomé-et-Principe, l'Angola, le Mozambique, donc de l'autre côté de l'Afrique, de l'autre côté de l'Atlantique, le Brésil et Timor-Est. Donc ça, ce sont des anciennes colonies portugaises auxquelles s'ajoute la Guinée équatoriale, qui est venue aussi adhérer à cette communauté des pays de langue portugaise. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite pourquoi, mais bon, on pourra éventuellement en discuter. Donc je vous parlais de cette idée de langue commune, la lusophonie, qui fait débat puisque une norme de la lusophonie définie à partir du centre, le Portugal, et du Brésil, donc, qui cherche donc à imposer la langue portugaise du Brésil. Voilà. Donc il y a des débats très intéressants entre le Brésil, le Portugal et les pays d'Afrique dits lusophones. Alors, pourquoi je rentre un peu dans les détails? En fait, il y a une prétention dans ce projet à un décentrement. Un décentrement notamment épistémologique, puisque l'idée, c'est de poser ces questions de continuité et de rupture avec les héritages coloniaux, pas seulement à partir du Portugal, hein, à l'heure actuelle, la recherche qui existe est beaucoup centrée, faite par des chercheurs portugais ou des chercheurs brésiliens, mais qui viennent travailler au Portugal. Être donc attentive à cette circulation des chercheurs et des concepts qui sont utilisés. Et ça me conduit donc à revenir sur le titre, puisque sans trop m'en rendre compte, vous voyez, j'ai mis postcolonial avec un tiret. Pourquoi? Parce que c'est plutôt l'usage dans son acception chronologique que je fais, c'est-à-dire après la colonisation, dans le cas de cet espace lusophone après 1974. Donc c'est une décolonisation qui est assez récente. Que je distinguerais, mais là, la réflexion est en cours, d'un postcolonial sans tiret, donc qui renvoie à toute la théorie, hein, des postcolonial studies, qui vise à questionner le au-delà. Hein. Le post renvoie à au-delà des héritages idéologiques coloniaux, donc qui sont encore présents dans les analyses littéraires et les sciences sociales. Donc là ma prétention, enfin, je ne vais pas vraiment revenir sur cette question du post-colonial, mais sachez que l'usage que j'en fais, c'est vraiment, en tout cas là dans l'immédiat, un usage chronologique. Qui met aussi l'accent sur une diversité de situations coloniales et post-coloniales. C'est souvent une des critiques qu'on fait aux sciences sociales qui s'inscrivent dans les post-colonial studies, c'est de finalement renvoyer à une situation coloniale et une situation post-coloniale unique, et là en l'occurrence, enfin, ou qui serait essentialisée, et là en l'occurrence, dans le cas de cet espace dit lusophone, d'emblée, en travaillant sur le Brésil et sur des pays comme l'Angola et le Brésil, la comparaison nous conduit d'emblée à voir qu'on a des situations extrêmement différentes. Alors, prudence aussi avec ce postcolonial, enfin, parce qu'il existe au Portugal un groupe de recherche à l'université de Coimbra, une équipe organisée autour des postcolonial studies, autour du sociologue Boaventure de Sousa Santos, qui donc reprend l'idée d'une singularité portugaise, donc un mode particulier d'être au monde, par sa capacité, je cite, à être simultanément au centre et à la périphérie du système des rapports mondiaux de pouvoir. Donc d'être à la périphérie dans sa relation en fait à d'autres, à l'Europe, enfin, par rapport à sa position au sein de l'Europe, donc le Portugal étant en Europe un pays à la périphérie, à la marge, et au centre par rapport à cet espace dit lusophone, donc dans sa relation avec les anciennes colonies. Et donc Boaventure de Sousa Santos a inventé cette idée de pays semi-périphérique qui illustrerait donc la relation du Portugal avec le monde spécifique. Et c'est une question qui est très discutée, qui est problématique, puisqu'elle renvoie donc à l'idée d'une singularité portugaise, un mode particulier d'être au monde, et qui renvoie aussi à une capacité particulière d'adaptation aux autres. Et c'est sur ce point que ça devient problématique. Capacité à tisser une relation particulière dans le rapport d'altérité, et à travers donc le mélange racial et l'hybridation culturelle. Et donc j'en viens à ce concept de lusotropicalisme dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui donc est extrêmement présente encore aujourd'hui dans la manière de penser ce pays, son identité nationale et son rapport au monde. Donc, je voulais dire aussi, avant de finir cette introduction, que cette réflexion s'inscrit dans la continuité d'un projet intellectuel qui a été élaboré par des anthropologues, des historiens, des géographes français autour d'une revue qui s'appelle « Lusotopie ». J'en ai pris un exemple là, qui intéresse particulièrement cette problématique. Et donc, j'ai repris hein, ce concept de la revue, le concept de lusotopie, qui renvoie à un espace empirique de recherche pour analyser ces continuités et ces ruptures coloniales, postcoloniales, impériales ou post-impériales. Je parle d'un espace ou d'une ère empirique de recherche pour bien le distinguer d'une ère culturelle. Je ne travaille pas sur l'espace lusophone en tant qu'ère culturelle. Ces collègues, historiens, anthropologues, géographes qui ont fondé la revue Lusotopie en 1992 s'inscrivaient dans une perspective dite matérialiste ou objective, qui a vraiment travaillé sur les héritages dans les systèmes politiques, dans les codes civils, dans les rapports de pouvoir sociaux, raciaux, dans la langue, etc. Et donc, je m'inscris dans cette perspective, mais en cherchant aussi à l'ouvrir à la question des imaginaires et à la manière dont les individus et les groupes vont se réapproprier cette histoire, les mémoires aussi collectives, pour circuler entre ces pays. Et donc, j'en profite, puisque la revue s'était interrompue en 2009, pour vous dire qu'elle a été relancée cette année et que vous verrez sans doute aussi circuler des appels à proposition de textes. Et donc, pour ceux que cela intéresse, n'hésitez pas. Alors, la réflexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a débuté à l'occasion d'une enquête de terrain que j'ai menée en 2012 en Angola, dans le cadre d'un post-doctorat, dans la ville de Luanda, qui est donc la capitale. Et donc, à l'époque, j'ai travaillé sur la présence portugaise dans cette ancienne colonie et donc sur l'expatriation et l'immigration de jeunes diplômés portugais. Alors, les raisons de cette présence sont les suivantes. Cette présence dans une ancienne colonie qui avait donc conquis son indépendance en 1975, puis eu de 1977 à 2002 connu une guerre civile meurtrière qui a engendré des déplacements de population énormes. Et donc, en 2002, la fin de la guerre est signée. Et petit à petit, l'Angola a son internationalise son économie, et notamment vers le Portugal, avec l'ouverture, donc l'achat de banques portugaises, l'investissement dans l'immobilier, notamment dans les médias, etc. Et donc, je vous ai préparé, j'ai ressorti ce petit PDF d'une revue portugaise, juste pour vous montrer, alors Luanda, la vie de luxe dans la ville la plus chère du monde. Donc c'est un dossier d'un hebdomadaire portugais paru en 2011. Mais donc c'était pour vous montrer comment il y a un renversement dans l'image de l'Angola au Portugal, qui passe donc d'un pays qui a connu une très longue guerre coloniale, puis une guerre civile, à un pays, et sa capitale plus particulièrement, qui devient donc la capitale la plus chère au monde, qu'on représente comme ça, à travers le luxe et des élites locales, membres du parti au pouvoir, hein, le parti État, le MPLA, qui vit une vie fort, fort agréable. Voilà, donc ça, ce sont des images très, très, enfin, récurrentes dans les médias portugais à partir de 2010. Et donc, avec aussi des portraits de Portugais qui y partent et qui y réussissent. Et donc, pourquoi ils y partent? Au Portugal, en 2010, il y a une crise suite à la crise financière mondiale de 2008. Il y a une crise économique et sociale terrible au Portugal. Et donc, ce pays qui a connu une émigration séculaire voit ses flux d'émigration de nouveau gonflés, majoritairement en direction de l'Europe, mais aussi il y a des flux plus restreints, mais qui sont très visibles en direction des anciennes colonies, notamment donc de l'Angola, mais aussi du Brésil un peu et du Mozambique. Avec cette idée qu'il est possible d'aller faire fortune dans ce pays. Et donc, en vous disant cela, enfin, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que parmi ces jeunes Portugais diplômés, expatriés ou immigrés, il y a des enfants de ce qu'on a appelé au Portugal les retornados, qui sont les rapatriés des colonies. Je ne retrouve plus. Qui sont donc littéralement, je vous ai indiqué là, ça signifie, on peut le traduire par ceux qui retournent. Et donc, c'est les Portugais qui ont été rapatriés par pont aérien en 1975, donc au moment de l'indépendance de l'Angola et du Mozambique. Alors, je tiens à rentrer un peu dans la complexité de ce groupe des retornados, qui était composé donc de 60% d'individus nés en métropole. Et donc, ce sont des familles portugaises, des Blancs, qui ont émigré dans le cadre de la colonisation, donc, mais tardive, dans les années 50 et 60. Et c'est une donnée importante, puisque au moment du rapatriement, pour ces individus et ces familles, qui pouvaient, eux, concevoir que c'était un retour, un rapatriement, puisqu'ils étaient nés au Portugal, il y a eu des modes de réintégration dans la société portugaise qui sont très différents du groupe, du sous-groupe suivant, qui est celui des 40%, donc nés en Angola et au Mozambique, composés notamment de familles coloniales plus anciennes, et donc qui étaient arrivées dans ces colonies à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est important pour comprendre certains des récits de vie que j'ai pu recueillir et pourquoi certains individus mobilisent toute une narrative autour d'un ancrage généalogique africain, un lien à la culture africaine, etc. Mais je reviendrai dessus. Et alors, dans ce sous-groupe des 40% nés en colonie, il y a aussi les enfants de l'émigration tardive, mais qui sont nés donc juste avant le rapatriement, jusqu'en 1975. Et donc, ce sont des individus qui donc sont nés en Angola et donc qui vont prétendre, pour certains d'entre eux, à partir des années 2010, donc, à avoir aussi pouvoir acquérir la nationalité angolaise. Mais j'y reviendrai. Et enfin, donc, on a un troisième sous-groupe qui est celui, alors, plus compliquées, des Africains dits noirs et métis, et des Asiatiques. Donc ça, c'est plutôt pour le cas du Mozambique. Il y a eu des flux historiques importants donc, avec l'Inde et la Chine. Et donc parmi eux, ce qu'on dit assimilés, donc les employés de l'administration portugaise et des supplétifs de l'armée portugaise, donc qui ont combattu au moment de la guerre coloniale, mais donc du côté portugais. Alors je tenais à rentrer dans la complexité, puisque au Portugal, les quelques rares études qui existent sur ces retornados portent sur les populations blanches. Et je pense que pouvoir vraiment travailler sur ces différents sous-groupes permet de comprendre des choses justement sur la question du racisme et des rapports d'altérité aujourd'hui, enfin dans la société portugaise. Par exemple, là, image typique des retornados qui ont été sur lesquels, voilà, certes, les travaux sociaux démographiques ont porté. C'est une famille de Portugais qui est arrivée donc en Angola au XIXe siècle. Et là, on nous dit qu'après la décolonisation, s'est dispersée entre le Portugal, le Brésil et les États-Unis. J'ouvre une toute petite parenthèse. Ces familles blanches, pour certaines d'entre elles, en 1974, donc au moment du rapatriement, certaines de ces familles ont mobilisé des réseaux familiaux, sociaux, économiques pour ne pas avoir à être rapatriés au Portugal, un pays qu'ils considéraient, dans lequel ils considéraient qu'il y avait donc une menace communiste. Donc on est dans la société portugaise post-révolution des œillets, et donc il y avait cette idée d'un péril communiste. Et donc certains des entretiens que j'ai menés avec les retornados, mais les plus âgés, que j'ai notamment rencontrés au Brésil, il y a ce discours de l'impossibilité pour eux d'aller vivre au Portugal. Et donc, il y a cette idée d'être parti en exil qui est assez, assez forte. Est-ce que, pour le moment, vous suivez ? Alors, mes interlocuteurs sont, pour ce travail donc, sur les flux migratoires contemporains entre le Portugal et l'Angola, bon, je l'ai divisé en trois groupes. Il y a à la fois des Portugais de 40 ans, plus ou moins, qui sont nés en Angola, qui ont été rapatriés enfants, voire adolescents, hein, en 75. Et le fait d'avoir été rapatrié bébé, enfant ou adolescent, cette question de l'âge de la vie a une incidence aussi sur le rapport qui va être construit plus tard avec l'Angola. Et notamment, c'est lié aussi à une expérience de la stigmatisation à la fois raciale et culturelle qui a existé donc, autour de cette figure du rapatrié. Et donc, ces interlocuteurs, ces Portugais âgés de 40 ans environ, qui sont nés en Angola et qui ont été rapatriés enfants, ils appartiennent donc soit à des familles de l'émigration coloniale ancienne. Et donc, c'est cela qui mobilise tout un récit généalogique d'inscription dans une ancestralité africaine, etc. J'ai choisi cette photo. Qui mobilise aussi un récit sur le métissage qui est extrêmement compliqué. João Carmo, cet interlocuteur là avec le polo coloré, est un instituteur hein, de Lisbonne et qui raconte donc qu'il est issu d'une fratrie de 9 enfants. Et d'emblée, il me dit, on a tous une couleur différente. À côté de lui, c'est son frère, et à côté de lui, c'est une des sœurs. On a tous une couleur différente. Notre arrière-grand-mère était une élite coloniale du Cap-Vert. Et donc, voilà, le récit, c'est un arrière-grand-père qui s'est marié avec cette femme métisse originaire du Cap-Vert. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre comment ces individus et ces groupes sociaux d'enfants, de retornados, de l'immigration ancienne, coloniale ancienne, qui s'inscrivent dans une africanité, jouent avec le stigmate de la couleur, avec les questions raciales. Donc ça, c'est un terrain qu'il faudra que j'approfondisse. Bon, j'enchaîne, je rentrerai après plus dans les détails. Il y a un autre sous-groupe qui est celui donc, de jeunes portugais qui sont âgés autour de 30-40 ans, et ceux-là sont nés au Portugal après 75, de parents retornados. Et c'est intéressant et c'est important de noter qu'ils sont nés après 75, puisque c'est des individus qui racontent ne pas avoir vécu la colonisation, la décolonisation, et ne pas avoir fait l'expérience de la dictature. Et c'est important parce que dans ce sous-groupe va surgir des positions mémorielles assez singulières qui interrogent cette impensée coloniale sur lequel je vais revenir après, et qui exige en gros que ce qui n'a pas été transmis jusqu'à présent de cette histoire coloniale, de la dictature, etc., leur soit transmis. Et enfin, dernier sous-groupe, encore des Portugais, âgés aussi entre 30 et 40 ans, aussi nés au Portugal après la Révolution, mais qui sont des enfants décolonisés, donc dits assimilés. Hein. Les individus donc, étaient issus des élites noires et métisses locales et qui ont suivi donc, la scolarité portugaise, etc., sous la colonisation. Et pour ce sous-groupe se pose... excusez-moi, je n'ai pas pris de photo, j'ai pas sélectionné de photo, qui se pose la question aussi là du stigmate de la couleur et de problématiques autour du racisme. Et c'est un sous-groupe qui m'intéresse en particulier parce que je pense que les retours en Angola doivent être aussi questionnés dans la perspective de problèmes donc de discrimination dans la société portugaise subie par ces individus, de discrimination sociale et raciale. Et c'est une question qui n'est absolument pas posée de cette manière au Portugal. Ce que montrent donc les sociologues sur ces questions, les sociologues portugais qui travaillent sur l'immigration postcoloniale au Portugal, une immigration postcoloniale qui n'est donc pas celle sur laquelle je travaille, hein, originaire des anciennes colonies portugaises, donc des flux sud-nord, capverdiens, angolais, guinéens, mais aussi brésiliens. Il y a eu des flux importants à partir des années 80 et dans les années 90. Ce que montrent donc les sociologues de l'immigration, c'est qu'il y a une prise en compte, un traitement politique de cette question de l'immigration en Portugal à partir des années 90, avec des mesures assez exceptionnelles de régularisation des illégaux. Il y a beaucoup de populations dites lusophones qui étaient venues illégalement au Portugal, qui ont été régularisées. Donc il y a eu des régularisations spectaculaires avec accès à des droits sociaux, le droit de vote, notamment donné à ces populations dites lusophones. Mais il y a eu donc un ensemble de politiques focalisées sur les questions sociales, d'insertion sociale dans la société portugaise, sortie des bidonvilles, etc. Et ces travaux montrent bien que la dimension ethnico-raciale est absolument pas questionnée sur l'échiquier politique. Ils expliquent notamment ça, donc nos collègues, à cette présence chez les élites portugaises de l'idée d'un universalisme lusotropicaliste. Hein, cette idée que les héritages coloniaux continuent à jouer dans les représentations racialisées de l'autre, un autre qui est représenté comme étant proche, le Brésilien comme étant un frère, et donc ça a fait poser un voile sur ces questions de racisme qui commence vraiment à émerger en tant que question politique seulement depuis quelques années, mais je reviendrai là-dessus. Donc, c'est cette idée donc du lusotropicalisme que j'ai évoqué trop rapidement tout à l'heure. Et donc, cette idéologie du lusotropicalisme, elle a été forgée par un sociologue brésilien dans les années 1950, qui s'appelle Gilberto Freire. Et cette idée du lusotropicalisme renvoie au fait que les Portugais s'adaptent particulièrement bien sous les tropiques. Donc elle part du contexte brésilien, hein, d'une société esclavagiste, pour montrer finalement comment les Portugais ont cette propension à se mélanger aux autres cultures, à se métisser, etc. Et ce qui est important à dire, c'est que cette idée, qui est devenue une idéologie, a été utilisée dans les années 50 par la dictature portugaise, la dictature salazariste. Donc au moment où les empires coloniaux européens volaient en éclats, le Portugal n'était absolument pas décidé à perdre son empire colonial et donc a investi dans une propagande très forte pour montrer comment les colonies étaient devenues des provinces outre-mer et pour montrer comment le portugais était un bon colonisateur. Et c'était notamment cette question du métissage qui a été mobilisée et qui, pour nous, chercheurs, pour moi, reste extrêmement problématique et compliquée à questionner parce qu'il y a effectivement des pratiques de métissage, mais par ailleurs, cela ne signifie pas forcément qu'il y a un métissage sans racisme. Et je vous ai du coup sélectionné ce discours hein, de politique qui mobilise cette idéologie, donc appelée universaliste lusotropicaliste, qui date de 1995, pardon. C'est un homme politique hein, du Parti populaire, mais sur ces questions, il y a un consensus au sein de la classe politique portugaise. Dans un contexte particulier, 95, il y a eu un crime raciste, un jeune luso-capverdien qui a été assassiné par des skinheads. Et donc, il y a ce type d'analyse en fait de la situation. À la terrible question, désolé pour les fautes. Acceptez-vous que votre fils se marie avec une personne d'une autre couleur? Les Portugais répondirent dans leur histoire d'une manière bien plus tolérante que peut-être ils n'y répondent aujourd'hui sous le règne du glorieux monde moderne. Bien que la question ne définisse pas nécessairement qui est raciste, il y a des réponses qui définissent qui ne l'est pas. Cela permet de soutenir, contre les professionnels du gauchisme, le caractère différent de la colonisation portugaise. Ses aspects moraux et culturels, même sans fondements légaux, révèlent une tradition de respect pour les autres races, rarement rencontrées dans les nations impériales, dont nous pouvons être fiers, s'il est comparé au racisme institutionnel et profond pratiqué, par exemple, par les Anglais ou par nos voisins espagnols. Il est donc radicalement injuste de vouloir introduire dans la lignée africaniste du Portugal le siège du Bairroalt, où donc où a eu lieu cet assassinat, par une bande de skinheads. S'il y a un phénomène portugais, c'est celui de l'universalisme dans la relation avec les autres peuples. Alors si je me suis arrêtée sur cet exemple, c'est pour que vous ayez en tête à quel point cette idéologie est présente, a été intériorisée et il est toujours en fait. Il est très commun de rencontrer des interlocuteurs, des instituteurs, vous parler de cela, de la même manière. Et donc c'est une explication de la raison pour laquelle donc, ces questions autour du racisme peinent à émerger comme un problème public au Portugal. Alors, moi, je propose de saisir ces logiques complexes dans les représentations de l'altérité à travers un groupe d'individus, des groupes d'individus que je vous ai présentés tout à l'heure, autour de cette question du métissage, mais qui est vécu, ou en tout cas qui est approprié par certains d'entre eux, à travers le métissage de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, avec des femmes africaines, noires ou métisses. Ce qu'il m'intéresse de voir à travers ces différents sous-groupes, à travers leur mobilité et à travers la manière dont ils se saisissent de leurs histoires, la manière dont ils reconfigurent aussi leurs identités, donc en fonction de cet héritage et la manière dont ils le reconstruisent. Alors, ça ne veut pas dire que j'exclus de ma recherche toute la problématique de l'immigration post-coloniale au Portugal, donc qui est celle des Cap-Verdiens, etc., Guinéens, Angolais, etc. Vous verrez qu'à la fin, justement, travailler sur ces descendants de retornados, dont certains se disent métis, permet justement de faire le lien avec certaines revendications récentes qui se manifestent notamment chez les afrodescendants au Portugal. Alors, un dernier arrêt sur une situation historique, et pour vous montrer aussi à quel point ces questions sont polémiques, au Portugal. C'est un tableau de la Renaissance de peintre flamand qui a fait l'objet d'une polémique récente à la suite donc d'une exposition qui a été organisée en 2017 au Musée national des arts anciens. Une exposition organisée par des historiennes anglaises et qui s'intitulait « La cité globale, Lisbonne pendant la Renaissance ». Et il y a une polémique autour de cette œuvre. Du fait de cette figure, c'est un chevalier, je ne sais pas si vous voyez, un chevalier noir. Et donc, polémique parce que certaines associations ont considéré que cette exposition, appelée donc la cité globale, Lisbonne pendant la Renaissance, mettait l'accent sur justement cette exceptionnalité des Portugais dans leur relation au monde et le fait qu'il y ait pu avoir à la Renaissance un chevalier, un noble noir dans la ville de Lisbonne. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit un peu sur l'histoire de la colonisation portugaise, on sait que ce n'est pas un exemple à part, en fait, qu'il y avait une présence de représentants de royaumes africains, notamment du Congo, qui se déplaçaient au Portugal, qui se déplaçaient à Rome, etc. Et que, voilà, c'est des figures qui ont aussi existé. Mais ce qu'il est intéressant là de voir, c'est comment finalement cette histoire vient brouiller, vient complexifier une relation actuelle, enfin une situation actuelle sur le problème du tabou autour de la colonisation et surtout de ses conséquences dans les relations ethnico-raciales au Portugal. Alors j'en viens à cette question posée dans le titre, la fin de l'impensé colonial. Point d'interrogation. Alors au Portugal, la révolution des œillets, donc, qui a eu lieu en avril 1974, a mis un terme à un demi-siècle de dictature, une dictature de droite, et en même temps à l'empire colonial en Afrique. Après 13 années de guerre coloniale ou de guerre d'indépendance. À la suite de l'indépendance de ces colonies de peuplement, donc principalement l'Angola et le Mozambique, il y a eu donc le rapatriement massif de ces retornados, 500 000 environ. Et à la suite de cette période post-révolutionnaire, il y a eu la construction d'un nouveau projet de société démocratique et d'un pays, d'une nouvelle identité nationale portugaise, à la fois tournée vers l'Europe et vers cet espace dit lusophone. Donc l'invention d'une nouvelle communauté imaginée, à la fois au centre et à la périphérie, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a l'institutionnalisation en 96, je vous l'ai aussi déjà dit, de cette communauté des pays de langue portugaise, qui est fondée sur l'idée donc d'une affinité qui est liée à l'histoire et d'une langue partagée, cette fameuse lusophonie, mais qui passe sous silence le passé commun, hein, qui est fait de violence, l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme. C'est pour ça que jusqu'à présent, Eduardo Lourenço, qui est un essayiste, philosophe portugais, parlait d'un pensé colonial. L'État démocratique portugais, donc à partir de 1974, a joué un rôle important dans le maintien de cet impensé colonial, à travers notamment donc, la construction d'un récit historique hégémonique qui glorifie l'expansion maritime, hein, les découvertes, les fameuses découvertes, et qui perpétue donc une vision positive de la colonisation portugaise fondée sur le lusotropicalisme déjà évoqué. Ces représentations du passé ont été alimentées par le champ académique portugais, qui a été longtemps, au niveau de l'histoire, hein, caractérisé par une historiographie hagiographique de l'Empire et l'absence d'une historiographie anticoloniale, et aussi la rareté de l'histoire orale. Je pense que c'est un aspect important. Rareté de l'histoire orale, donc absence de témoignages. Et la notion de mémoire était aussi essentiellement utilisée dans le cadre d'un récit identitaire d'une nation portugaise fondée sur une tradition impériale. Pourquoi je vous parle d'histoire orale et de mémoire? C'est pour mettre l'accent sur le fait que jusqu'à assez récemment, il n'y a pas eu de recueil témoignages, d'expériences vécues de personnes et de groupes donc, sous la dictature, pendant la colonisation, la décolonisation, etc. Et je pense que c'est un aspect intéressant. Et c'est du champ littéraire, et de la fiction notamment, donc post 25 avril, que surgit un contre-discours, hein, à ce récit, à cette historiographie hégémonique, qui permet donc de diversifier un récit sur le passé et qui permet de faire émerger donc une diversité de mémoire sociale. Et donc, cette diversité renvoie à la fois à des ex-combattants hein, qui vont prendre la parole, écrire, prendre la plume, plutôt écrire sur l'expérience vécue pendant les guerres coloniales en Guinée-Bissau, en Angola et au Mozambique, et autre mémoire sociale qui est celle des retornados, qui m'a intéressée plus particulièrement. Alors, qui m'a intéressée parce que, initialement, les récits autour de l'expérience vécue par les retornados étaient surtout des récits de l'espace intime, évoquer donc dans les familles une expérience de l'Afrique transmise dans l'espace familial à travers l'alimentation, éventuellement des pratiques religieuses, aussi la participation à des rencontres de retornados. Là, je vous ai sélectionné quelques photos d'une rencontre à laquelle j'ai participé en 2013, donc de ces rapatriés là d'Angola, qui se réunissent annuellement pour célébrer ce qu'ils appellent notre terre. Donc on est dans vraiment la construction de mémoires nostalgiques d'un pays qui n'existe plus et qui est regretté. Donc on n'est pas du tout dans la construction d'un récit critique sur l'histoire de la colonisation. Donc vous voyez, ils font des voyages. Là, c'est un DVD qui reprend donc un voyage qui a été fait dans la ville d'origine de ce groupe hein, en Angola et qui reprend donc des images à la fois ancienne et puis actuelle, des souvenirs. Alors là, je l'ai sélectionné parce que ça met vraiment l'accent sur notre terre, voilà, des symboles de cette terre, notamment de l'antilope, hein, qui est devenu aussi un symbole de la nation postcoloniale angolaise. Mais l'antilope est aussi très, très présente dans certaines maisons de retornados. L'antilope était chassée. Et donc, dans certaines maisons, c'est une décoration qui renvoie au pays. Des plats africains, dits africains. Voilà, Donc, on a un ensemble de récits qui existent, hein, qui surgissent dans les années 90, début des années 2000, et donc qui renvoient à la fois à l'expérience traumatique du rapatriement, beaucoup de récits journalistiques qui sont centrés sur le pont aérien, sur les conditions de vie très difficiles des familles à l'aéroport de Lisbonne, des familles qui n'avaient pas de logement, etc. On a aussi des livres de photos, beaucoup de photos qui circulent sur Internet. Et là, on voit vraiment l'importance des réseaux sociaux aussi dans la circulation de représentations de ce passé, des blogs mémoriels, et qui montrent aussi les liens transnationaux, comment ces mémoires dites transnationales se construisent entre le Portugal, le Brésil, mais aussi l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis. Là, il y a tout un pan de la recherche sur les mémoires transnationales, vraiment qui serait à approfondir, d'essayer de voir comment l'impact des milieux, des cadres sociaux, hein, pour reprendre Alvax, l'impact que ça a sur la construction de ces mémoires. Et donc, je vous le disais, tout un récit mémoriel, mais qui renvoie donc davantage à un récit de destin ordinaire et finalement acritique sur cette histoire. La fin des années 2000, on a un autre récit mémoriel qui surgit, récit mémoriel de la décolonisation et du retour. Donc là encore, hein, qui part de la littérature portugaise et notamment d'auteurs avec un E, de femmes qui se disent elles-mêmes retornadas et qui vont être très en lien, construire des liens aussi avec certains chercheurs et notamment des anthropologues qui commencent à travailler, des historiens qui commencent à travailler à partir de témoignages et de récits. Il y a par exemple, fin 2015-2016, une exposition qui est organisée à Lisbonne, qui s'appelle Retourner, traces de mémoire au pluriel, et qui est organisée donc par une collègue anthropologue et qui vise, je la cite, à comprendre comment une expérience historique est vécue comme une expérience personnelle, émotionnelle et sensorielle. Et donc cette collègue qui travaille à partir d'archives donc qu'elle a elle recueillies, des récits et des archives privées de ces familles de retornades qu'elle a recueillies, elle organise cette exposition qui vise vraiment à un dialogue et, entre retornades et non retornades et qui vise à faire, enfin, qui a pour objectif, pardon, de faire que cette question des retornades devient une question aussi politique dans la société portugaise. Et donc, elle travaille notamment avec une de ses auteurs qui s'appelle Isabelle Figueiredo, qui est née en 1963. Elle est née à Maputo, au Mozambique. Elle a été rapatriée à l'âge de 13 ans. Et c'est la première publication qui vise, je la cite, à lever un tabou, à parler pour dire la vérité. Donc on est en 2009. Hein. La violence quotidienne dans les rapports entre blancs et noirs en situation coloniale, je la cite. Elle explique aussi que cette démarche l'a contrainte à trahir ses pères, c'est son expression. Et donc elle attendra le décès de son propre père, qui devient cette figure du colon hein, dans son roman. Elle attend son décès pour publier, donc 40 ans après le rapatriement, ses chroniques, qui était donc initialement écrite sur un blog. Donc on a des récits qui émergent hein, de dénonciation de la colonisation et qui sont enchevêtrés à une autre dénonciation qui est celle de l'absence d'héritage de l'histoire sur l'histoire de la dictature au Portugal. Et dans cette exposition, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'on avait d'un côté le projet de cette collègue anthropologue qui visait au dialogue et qui visait à essayer de faire comprendre à des non-retornades cette expérience du retour en tant que colon. Des retornades qui ont été stigmatisés, je vous l'ai dit, dans la société portugaise en tant que colons, racistes, etc. Essayer de dépasser ce récit pour permettre voilà, un dialogue entre différents groupes sociaux. Et ce qui m'a intéressée dans cette exposition, c'est qu'y ont aussi participé des artistes. Qui sont, eux, beaucoup plus engagés et qui ont élaboré, eux, des projets politiques, justement, visant à articuler absolument cette question des retornados à celle de la dictature et des guerres coloniales. Voilà. En disant que, d'accord, il peut y avoir cet effort de comprendre l'expérience de l'autre, mais que le problème quand même fondamental que la société portugaise traverse, c'est ce problème d'absence de transmission entre la période de la dictature et de la colonisation et l'après. Je cite une de ces artistes qui s'appelle Joana Claveiro, je la cite, je pense que c'est un spectacle de ma génération parce qu'il reflète une inquiétude de post-mémoire, c'est elle qui utilise ce terme, de personnes qui n'ont pas vécu directement les événements, mais qui les ont reçus de manière directe de leur famille. C'est un projet qui réfléchit sur la transmission de la mémoire. Je ne sais pas si quelqu'un a des doutes sur le fait que le Portugal maltraite sa mémoire, mais il me semble que l'on a déjà beaucoup parlé de politique de la mémoire, ou mieux, de l'absence de ces politiques. Il y a des pays qui ont eu des régimes dictatoriaux, qui sont donc des post-dictatures, comme nous. Nous avons eu une dictature, c'est le nom de ce que nous avons vécu. Et par exemple, c'est une politique menée dans certains de ces pays que de transformer des lieux emblématiques de torture en espaces muséologiques. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici, rue Antonio Maria Cardoso, c'est le site, le siège de l'ancienne police politique, où il y a de nombreux donc antifascistes qui ont été torturés. Dans cette rue-là, il y a un théâtre qui a été construit, et donc de cette absence que cette rue se matérialise par la transformation en immeuble de luxe d'un local étant un symbole politique de répression qui devrait être préservé pour le bien des générations futures. Voilà, donc on a, au début des années 2000, quelques projets autour qui articulent donc cette question de la décolonisation à l'histoire récente, traumatique de la dictature. Alors, ce qui est intéressant pour moi, travaillant sur la mémoire collective et aussi les politiques mémorielles, c'est de voir comment ces artistes, ces activistes revendiquent qu'il y ait lieu au Portugal une politique de la mémoire. En fait, s'inspire d'expériences qu'ils ont pu avoir en France ou en Angleterre et qu'ils vont donc mobiliser pour montrer que le Portugal a encore beaucoup de travail à faire sur cette question. Mais c'est souvent des individus qui ne font pas le lien avec les situations vécues dans les anciennes colonies. Et donc, c'est à ça que je viens maintenant. C'est la dernière partie de mon exposé. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis la fin de la guerre civile en Angola, en 2002, l'Angola est redevenue donc un pays d'investissement pour les entreprises portugaises, ça je ne vous l'ai pas dit. Donc il y a eu à partir de 2002 la reconstruction de liens économiques, mais qui étaient fondés sur des liens sociaux, transnationaux, notamment de ces familles, anciennes familles coloniales dites métisses. Donc investissement d'entreprises portugaises en Angola, qui fait qu'on a déjà, juste après la guerre civile, des flux qui augmentent de Portugais diplômés qui vont travailler dans le cadre de ces entreprises portugaises en Angola. Et qui fait que... on a le début, enfin quelque chose, un phénomène de retour qui s'amorce d'individus issus de ces familles de retornados qui vont chercher à renouer des liens avec l'Angola par le biais de projets professionnels, mais une fois sur place, en allant sur les lieux de l'histoire, de la mémoire familiale, les maisons, les lieux de naissance, etc. Et on observe aussi donc un phénomène acquisition de la nationalité angolaise. Donc certains de ces individus deviennent des binationaux, portugais ils l'étaient déjà, mais angolais, le droit du sol lié au fait que leurs parents ou leurs grands-parents étaient nés sur les territoires angolais avant l'indépendance. On a l'internationalisation donc de l'économie angolaise qui s'accélère et donc avec aussi les investissements qui s'accroissent au Portugal, donc d'entreprises de multinationales angolaises. Et donc, à partir de 2007-2008, on a vraiment une augmentation des flux à double sens entre ces deux pays. Et dans ce contexte, pour les Portugais, posséder la nationalité angolaise devient un vrai enjeu qui permet la circulation, une libre circulation entre les deux pays, puisque sinon l'obtention de visa de travail est compliquée. Même pour les Portugais. Alors, je me suis intéressée au moment de cette enquête menée à Luanda auprès de ces expatriés et ces immigrés portugais à ceux donc issus de familles de retornados et qui revendiquent une certaine africanité, hein, un sentiment d'appartenance au territoire angolais, à ses cultures. Hein, certains nous parlent des ethnies, des différentes langues, que certains d'ailleurs essayent de parler quand ils téléphonent à leurs parents. Et qu'ils sont retournés sur des lieux de la mémoire familiale. Ils essayent d'échanger quelques mots en kibundu, umbundu, voilà, avec les parents. Et donc, il y a une réappropriation de cette mémoire familiale. Mais néanmoins, tous n'envisagent pas donc, leur présence en Angola comme un retour. Il y aurait vraiment une discussion à avoir autour de cette notion de retour, puisque pour certains, elle est vraiment associée à cette idée de continuité historique, et donc qui est vécue comme illégitime par certains de ces individus, parce que ça fait d'eux des figures d'anciens colons. Et donc, pour certains d'entre eux, il y a vraiment, lorsque je faisais des entretiens, la volonté de mettre de côté, voire dissimuler ce passé familial de retornados. Je le savais après, lors d'un deuxième entretien. Il y a vraiment, il y a pour certains, une honte autour de cet héritage. Et c'était le cas de Noun, qui est un ingénieur civil, qui est né en Angola en 1974, de parents qui étaient aussi nés en Angola. Et lui, donc, il avait quitté l'Angola en 1975 à l'âge de 9 mois. Et donc, il est revenu en Angola en 2016, alors qu'il avait 32 ans. Et il raconte, j'ai toujours entendu des histoires d'Angola et j'ai toujours été très curieux, même si je me faisais une idée très différente de ce que j'ai rencontré en arrivant. Le fait d'avoir grandi en entendant de belles histoires sur l'Angola, le fait que mes parents aient vécu ici tant d'années et qu'ils en parlaient si bien, a créé des attentes et je pensais rester ici 10 ans. Quand je suis arrivée, j'ai vu que ce n'était pas ce que j'avais imaginé et entendu raconter. Ce n'était plus ce même pays. Et c'est un récit qui me semble intéressant parce qu'il permet d'interroger cette proximité culturelle qui est souvent avancée pour expliquer en fait l'expatriation et l'immigration de ces jeunes Portugais vers l'Angola, alors qu'on voit concrètement que pour beaucoup de ces expatriés et de ces immigrés, finalement, l'expérience angolaise est très brève. Que ces individus ne parviennent pas à s'installer en Angola, ne parviennent pas à s'insérer et ils vivent en fait dans l'univers souvent enfin, des expatriés blancs sans chercher donc à s'insérer dans la société angolaise. Donc, il raconte comment ils sont retournés, visiter la maison où la famille avait vécu, que les nouveaux propriétaires de cette maison n'ont pas voulu ouvrir. Voilà, donc il y a ces récits d'interaction avec les Angolais. Et, mais pas, il ne s'agit pas d'un récit vindicatif hein, qui dirait « cette maison nous appartient, on nous l'a volée », etc. Il y a vraiment dans ces récits donc, de descendants de retornados qui s'inscrivent dans une continuité historique, cette idée finalement d'intégrer que dans ce contexte post-colonial, voilà, c'est, il y a une rupture acceptée et ce pays n'est plus le leur et voilà, on tourne la page. Il y a parmi certains d'expatriés des récits qui mobilisent les catégories raciales, hein, de blancs, métis, etc., pour bien montrer qu'il y a finalement un groupe d'expatriés qui est là pour peu de temps, pour enfin, qui s'inscrivent, des trajectoires professionnelles, hein, qui s'inscrivent dans des projets plus classiques d'expatriation de courte durée, et avec aussi, chez certains d'entre eux, vraiment un usage des catégories sociales, des catégories raciales extrêmement rigides, héritées du temps de la colonisation. Et donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'essayer de poursuivre sur ces groupes issus de familles métisses, où il y a vraiment cette mobilisation aussi d'un imaginaire du métissage, pour essayer d'aller au-delà de ces catégories très rigides. Donc je finirai sur la figure d'un autre interlocuteur que j'ai appelé Pedro, qui est de ceux, là encore, qui s'inscrit dans une famille de retornados, mais d'une émigration coloniale ancienne, et qui raconte que, je le cite, à 11 ans, je ne savais pas ce qu'était le racisme, l'indépendance, etc. Et donc, il me raconte comment il participait à ces rencontres de retornados sans avoir conscience de ce qu'était le racisme, l'indépendance, etc. Il explique, mais j'ai eu un choc à 18 ou 19 ans. Et 18 ou 19 ans, c'est l'âge de son premier voyage en Angola en 2007, lorsqu'il accompagne sa mère, qui est une femme, donc retornade, mais née en Angola, elle-même de mère née en Angola. Et pour sa mère, c'est le premier retour sur le lieu d'origine. Et pour sa mère, donc, en plus de constituer des retrouvailles familiales, donc avec certains parents qui étaient restés en Angola, ces couples métis, il permet donc à sa maman d'accomplir un travail de deuil, donc au sens propre, puisque son père était décédé accidentellement et enterré sur place, et se souvenir de la tombe de son père qu'elle ne pouvait pas entretenir étaient des souvenirs qui la hantaient. C'est ce que me raconte Pedro. Et donc, sa maman entame à cette occasion, donc on est en 2007, des démarches pour l'obtention de la nationalité angolaise. Et donc, ce qui permettra aussi, quelques années plus tard, à Pedro d'obtenir lui aussi la nationalité dite d'origine. Et donc, pour Pedro, le voyage, le déterminant de ce voyage, il me raconte, a été le positionnement de sa mère par rapport à son passé. Je le cite, « Si elle avait éprouvé de la nostalgie, je ne sais pas comment notre relation serait aujourd'hui. » Il raconte le partage d'une relation donc avec la culture angolaise et les Angolais, parler en kibundu et manger dans la rue, découvrir la cuisine locale et non pas la nourriture des Blancs. Pour lui, ça c'est la nourriture des Blancs, la nourriture pour les retornados, ça je n'en veux plus. Un an plus tard, Pedro repart donc seul en Angola, dans le cadre d'un projet professionnel avec une université privée de Luanda. Il part en fait en tant que cadre de l'administration de cette université et donc il a pour but de mettre en ordre l'organisation administrative dans cette université privée. Et le récit de cette expérience est intéressant puisqu'il parle d'une expérience traumatique, c'est lui qui utilise le terme, à l'égard du comportement des Portugais, donc de ses compatriotes portugais sur place. Donc les Portugais expatriés et qui n'ont pas de lien, de liens familiaux avec l'Angola. Et cette dénonciation du comportement des Portugais s'articule autour de trois éléments. Le premier, c'est la question de la nostalgie. Et donc, il revient longuement sur l'importance de la posture non nostalgique de sa mère lors de son retour en Angola. Une rupture avec le rapport au passé, tel que la famille le vivait à l'occasion des rencontres de retornados. Qui est donc un rapport nostalgique. Il y a une rupture à partir du moment où lui et sa mère partent en Angola. Il y a une rupture avec ce rapport nostalgique. Le passé n'est plus uniquement associé à une vie heureuse, ordinaire, menée en Afrique. Il revêt aussi des contours politiques, hein, ceux du système d'oppression coloniale, qui est généralement donc passé sous silence, dans des récits, hein, qui rendent implicite l'idée que l'Empire, c'était bien. Le deuxième élément que l'on retrouve dans sa dénonciation des continuités coloniales, hein, est d'ordre économique. Et donc, il renvoie à la question du rôle joué par les étrangers, hein, et notamment les Portugais, dans la reconstruction de l'Angola depuis 2002. Leur participation directe dans tous les secteurs, hein, liés, tous les secteurs clés de l'économie. Hein, les Portugais sont très présents dans les cabinets de consulting internationaux, tout ce qui a trait à la gestion financière. Et donc, il dénonce la logique de court terme et le peu d'intérêt des autorités angolaises pour le transfert technologique et de savoir. C'est lui qui utilise ces termes. Il dénonce, je le cite encore, la prédation économique à laquelle se livrent les nombreuses entreprises codirigées donc par des Portugais et des cadres de ces entreprises portugaises. En fait, il y a l'obligation, du point de vue de la loi angolaise, que ces entreprises dites portugaises soient dirigées à la fois par un Angolais et un Portugais. Il décrit un système d'enrichissement individuel à travers la dilapidation des biens publics, hein, c'est lui qui parle, rendu possible par la corruption locale et la spéculation immobilière. Les Portugais gagnent énormément d'argent, des millions de dollars, et donc un système auquel lui-même il aurait pu participer, mais qu'il a dénoncé et donc menacé sur place, hein, par son entreprise. Il a été contraint de rentrer au Portugal. Dernier aspect de la dénonciation, donc en plus de la nostalgie et du néocolonialisme économique, c'est celle du racisme des Portugais. Pedro évoque donc son expérience de la complicité qui est recherchée, explique-t-il, par les hommes blancs, expatriés, célibataires, lors des soirées, justement, où les blancs sont très majoritaire, et donc il explique cette complicité partagée, des propos dégradants. Il parle de propos déshumanisants sur les femmes noires, et il raconte donc la violence qu'il ressent lui face à ces rapports socio-racialisés et la continuité donc des hiérarchies raciales héritées de la colonisation. Il a reçu au moment de son séjour des cousins à lui qu'il me décrit comme étant noirs ou métis, qui sont issus donc d'un mariage entre un homme portugais blanc et une femme locale, donc ces familles métisses. Et donc il a des cousins qui vivent au Portugal, mais qui viennent aussi régulièrement visiter leur famille en Angola. Et donc, il s'est retrouvé dans l'espace de cette université privée où il travaillait, il s'est retrouvé confronté au racisme que vivaient ses cousins métis, à qui on interdisait, par exemple, l'accès aux salles de bain qui étaient réservées aux professeurs blanches, me raconte-t-il. Voilà, il me raconte toute une série de situations qui sont pour lui, donc, qui lui permet de dénoncer donc, les pratiques racistes des Portugais envers ces individus. Alors, c'est intéressant, et une des questions que je me pose, c'est de savoir si cette posture critique, hein, de Pedro est généralisable. Et il faudra que je poursuive la recherche, mais il me semble que oui, puisque c'est une posture que j'ai pu observer à d'autres moments, mais plutôt donc lors de l'enquête de terrain que j'ai menée déjà au Portugal, auprès de ses descendants de retour au Portugal après une expérience professionnelle en Angola. Et donc, avec ce discours vraiment d'une expérience traumatisante vécue en Angola, mais traumatisante du fait des Portugais dans leur relation aux populations locales. Pour conclure, donc je m'interroge hein, sur le fait de savoir si c'est des exemples qui sont généralisables. Et j'ai ressorti donc une vignette de terrain que j'ai donc trouvée dans un carnet de terrain écrit donc à Lisbonne, enfin, lors d'une enquête de terrain menée à Lisbonne en 2013, que je vous lis. Peut-être que je dois vous dire quelque chose du contexte avant et vous montrer. On est en mai 2013 et au mois de mai, il y a un ensemble de festivités à Lisbonne autour du Dia de Africa, le jour de l'Afrique, mais qui est ce qui sont des commémorations célébrées, organisées par les instances de la CPLP, donc cette fameuse communauté des pays de langue portugaise, avec une forte présence d'associations d'immigrés africains, d'origine africaine au Portugal, donc des Angolais, des Capverdiens, des Guinéens. Vous voyez, avec vraiment des représentations de l'Afrique, d'une Afrique authentique. Hein, les associations angolaises, cabardiennes, etc. sortent ce type de costumes. Et donc, il y a toute une ambiance très festive. Là, cette jeune femme, c'est une fille de Retornado, avec voilà, son mari et son fils. Donc, il y a une parade, beaucoup de drapeaux, une forte présence hein, des associations, comme je viens de le dire. Proximité très grande entre ces associations et la politique des communautés portugaises et la politique menée d'immigration menée par l'État portugais. Et donc, cette photo illustre un cas à part d'une association de jeunes de différentes origines. Bon, la jeune femme a un t-shirt qui renvoie à une origine de Saint-Thomé, mais le jeune homme du milieu vient d'Angola. Et donc, c'est une association intéressante parce qu'il y a justement tout un discours qui dénonce le fait que cette politique des communautés portugaises, cette politique du monde lusophone, de la lusophonie, en fait, est une rhétorique post-impériale. Et donc, il y a vraiment, ils sont là, ils sont un peu en marge de cette manifestation, mais pour dénoncer cela, dénoncer l'usage du terme lusophonie. Et je pense que c'est un aspect intéressant et important pour une future recherche, voir comment surgit un discours critique chez ceux qui se disent notamment afro-descendants. Alors, je lis la vignette. Le festival Africa intègre cette année l'agenda des festivités du Dia de Africa, commémoré au Portugal tout le long du mois de mai. À Lisbonne, au théâtre de Bairro, j'assiste le 24 mai à une performance intitulée Le dernier message d'Almicar Cabral au peuple de Guinée et du Cap-Vert. Des images qui sont transmises à l'occasion donc de cette performance. On voit des images de la présence portugaise en Afrique, hein, qui sont tirées de films documentaires, qui sont projetées, et des images qui sont celles de familles de colons portugais, mais vivant dans des huttes. Donc là, on a vraiment cette volonté de montrer une image du colon portugais complètement perdu dans cette vaste étendue africaine, restée à l'état sauvage, etc. Donc on a une volonté de déconstruire cette figure du colon. Et donc un des performeurs dit qu'il faut décoloniser les esprits, décoloniser les esprits. Et participe à cette performance aussi un enfant de Retornado, plutôt du profil de Pedro dont je viens vous parler. Et voilà, donc je mets en parallèle, hein, c'est à un jour d'intervalle, ces deux événements, cette observation à l'occasion de cette performance qui appelle à décoloniser les esprits, avec ces commémorations que donc j'observe au centre de Lisbonne, commémorations donc autour de ces communautés des pays de langue portugaise, et où intervient donc ces jeunes de l'association Bouéfix, hein, et qui dénoncent France l'idéologie néocolonialiste de la lusophonie et du projet politique donc, du Portugal. Voilà, merci.